pays lointain. Nouvelle de Jack London. Tout homme qui voyage en pays lointain doit se préparer à oublier la plupart des choses qu'il a apprises et à se plier aux coutumes inhérentes à l'existence dans cette nouvelle contrée. Il doit abandonner ses idées anciennes et ses anciens dieux, et parfois même renverser les codes qui ont jusqu'alors forgé sa conduite. Pour ceux qui possèdent la faculté de s'adapter, la nouveauté d'un tel changement peut même se révéler une source de plaisir. Mais pour ceux qui se trouvent être endurcis par les routines qui les ont formés, la contrainte d'un environnement modifié s'avère insupportable. Leur corps et leur esprit s'insurgent contre les nouvelles restrictions qu'ils ne peuvent comprendre. Cette révolte entraîne des actions et des réactions, produisant divers maux et menant à divers malheurs. Il serait préférable pour l'homme qui ne peut s'intégrer à ce nouveau rythme de retourner dans son propre pays. S'il tarde trop, il en mourra, à coup sûr. L'homme qui tourne le dos au confort d'une ancienne civilisation pour affronter la jeunesse farouche et la simplicité primitive du Grand Nord peut évaluer sa réussite à proportion inverse de la quantité et de la qualité des habitudes définitivement ancrées en lui. Il découvrira bientôt, s'il est un candidat adapté, que les habitudes matérielles sont les moins importantes. Échanger de telles choses qu'un menu raffiné pour un plat grossier, une chaussure de cuir solide pour un mocassin mou et informe, un lit de plumes pour un trou dans la neige, est en fin de compte aisé. Mais la difficulté viendra lorsqu'il apprendra à adopter un état d'esprit envers toute chose, et en particulier envers ses compagnons. Aux politesses de la vie ordinaire, il devra substituer le désintéressement, l'indulgence et la tolérance. Ainsi, et seulement ainsi, parviendra-t-il à obtenir cette perle précieuse, qu'est la vraie camaraderie. Il ne devra pas dire merci. Il lui faudra exprimer sa gratitude sans ouvrir la bouche et la prouver de façon tangible. En résumé, il lui reviendra de remplacer la parole par l'acte, la lettre par l'esprit. Quand le monde résonna de la fable de l'or arctique et que l'attrait du Grand Nord fit vibrer le cœur des hommes, Carter Wiserby laissa tomber son emploi de bureau douillet, remit la moitié de ses économies à sa femme et avec le reste, s'acheta un équipement. Son caractère n'avait rien de romanesque. Le carcan du commerce avait écrasé en lui tout sentiment de cette nature. Il était simplement las de cette éternelle routine et désirait courir de grands risques en vue d'en tirer d'aussi grands bénéfices. Comme la plupart des imbéciles, dédaignant les anciennes pistes battues par les pionniers du Grand Nord depuis une vingtaine d'années, il fila au printemps sur Edmonton et là, par malheur pour le salut de son âme, se joignit à une groupe de chercheurs d'or. En dehors de leur projet, ces hommes n'avaient rien d'extraordinaire. Leur objectif, comme tous les autres, était le Klondike. Mais le chemin par lequel ils prévoyaient d'y parvenir laissait pantois les plus aguerris des indigènes nés et élevés pour les vicissitudes du Nord-Ouest. Jacques Baptiste, lui-même, fils d'une Chippewa et d'un voyageur renégat, qui avait poussé ses premiers vagissements sous une hutte en peau de daim au nord du 65e parallèle et s'était endormi en suçant avec délice des morceaux de graisse crue, s'en étonnait. Bien qu'il leur eût loué ses services et accepté de les conduire jusqu'aux glaces éternelles, il secouait la tête d'un air inquiétant chaque fois qu'on lui demandait son avis. La mauvaise étoile de Percy Cuthbert devait suivre une course ascendante, car lui aussi se joignit à cette compagnie d'argonautes. C'était un homme ordinaire, doté d'un compte en banque aussi conséquent que sa culture, laquelle était vaste. Il n'avait aucune raison de s'embarquer dans une telle entreprise, aucune raison au monde, sinon qu'il souffrait d'une sentimentalité anormalement développée. Il se figurait s'être équipé comme le véritable esprit du romanesque et de l'aventure. Plus d'un, avant lui, avait fait de même et commis une erreur tout aussi funeste. La première rupture du printemps vit le groupe suivre le dégel de l'Elk River. C'était une flottille imposante car l'équipement était considérable et ils étaient accompagnés par un contingent peu recommandable de voyageurs métis avec femmes et enfants. Jour après jour, ils s'escrimaient sur les bateaux et les canoës se battaient contre les moustiques et autres pestes similaires ou suaient et juraient pendant les portages. Un dur labeur comme celui-là met l'âme d'un homme à nu jusqu'à ses racines. Et avant de laisser au sud le lac Athabasca, chaque membre de l'expédition était apparu sous son vrai jour. Les deux tyroflans et râleurs chroniques étaient Carter Witherby et Percy Cuthbert. Personne dans le groupe ne se plaignait de ses maux et de ses souffrances autant qu'eux. Pas une seule fois, ils ne se portèrent volontaires pour effectuer les 1001 corvées du campement. Fallait-il aller chercher un seau d'eau, couper un fagot de bois supplémentaire, laver et essuyer la vaisselle, rechercher au milieu du matériel un objet soudain indispensable? Ces deux descendants ramollis de la civilisation se découvraient une foulure ou une ampoule exigeant une immédiate attention. Le soir, ils étaient les premiers à se coucher, laissant une vingtaine de tâches encore à accomplir. Et le matin, ils étaient les derniers à se montrer, alors que tout devait être prêt pour le départ avant de prendre le petit déjeuner. Ils étaient les premiers à se présenter au repas, mais les derniers à donner un coup de main à la cuisine. Les premiers à bondir sur les meilleurs morceaux et les derniers à s'apercevoir qu'ils s'étaient approprié la part de quelqu'un d'autre. S'ils maniaient les pagaies, ils fendaient l'eau avec malice à chaque coup de rame et laissaient le bateau suivre son élan. Ils croyaient que nul ne s'en apercevait, mais leurs camarades juraient à voix basse et en venaient à les détester, tandis que Jacques Baptiste les raillait ouvertement et les maudissait du matin au soir. Il faut dire que Jacques Baptiste n'avait rien d'un gentleman. Aux grands esclaves, on acheta des chiens de la baie d'Hudson. Et la flottille s'enfonça jusqu'au bordage sous le poids supplémentaire du poisson séché et du pemmican. Enfin, canoës et bateaux, emportés par le courant rapide du Mackenzie, plongèrent dans les grandes terres désolées. Le moindre affluent semblant prometteur fut prospecté, mais l'insaisissable gisement exploitable les attirait sans cesse plus au nord. Au Grand Ours, vaincu par l'effroi qu'ils ressentent d'ordinaire devant les terres inconnues, les voyageurs commencèrent à déserter. De sorte que le fort de Bonne-Espérance vit les derniers et les plus braves courbés sous les câbles de remorquage, tandis qu'ils luttaient contre le courant dans lequel ils s'étaient laissés si traîtreusement entraîner. Seul Jacques Baptiste demeura. N'avait-il pas juré d'aller, si nécessaire, jusqu'aux glaces qui ne s'ouvrent jamais? Les cartes étalées, établies en grande partie par Huidir, étaient désormais consultées en permanence. Il ressentait le besoin de se hâter, car le soleil avait déjà dépassé le solstice septentrional et ramené l'hiver vers le sud. Longeant les rives de la baie où le Mackenzie se jette dans l'océan Arctique, ils pénétrèrent dans l'embouchure de Little Peel River. Alors commença le travail ardu qui consiste à remonter le courant, et les deux incapables se comportèrent pire que jamais. Le câble de halage et la perche, la pagaie et la remorque, les rapides et les portages, toutes ces tortures eurent pour effet de donner à l'un un profond dégoût pour les grands hasards de l'existence et à l'autre l'occasion d'écrire un texte enflammé sur le véritable romanesque de l'aventure. Un jour, ils se mutinèrent et se voyant injuriés honteusement par Jacques Baptiste, ils redressèrent la tête comme le font parfois les vers de terre. Mais le métis les roua tous les deux de coups et les renvoya, meurtris et ensanglantés, à leur tâche. C'était la première fois que l'un ou l'autre avait été malmené. Abandonnant leur flottille aux sources de Little Peel, ils passèrent le reste de l'été sur le grand portage situé au niveau du partage de la ligne des eaux proche du West Rat. Cette petite rivière se jette dans le Porcupine, qui à son tour rejoint le Yukon, à l'endroit où cette imposante artère du Grand Nord s'écoule dans le sens inverse du cercle arctique. Mais ils avaient perdu la course contre l'hiver, et un jour, ils attachèrent leur radeau à la glace épaisse qui tourbillonnait et débarquèrent en hâte leurs équipements. Cette nuit-là, la rivière se solidifia et se désagrégea plusieurs fois. Le lendemain matin, elle s'était endormie pour de bon. Nous ne pouvons pas être à plus de 400 miles du Yukon, estima Sloper en multipliant la largeur de l'ongle de son pouce d'après l'échelle de la carte. Le conseil pendant lequel les deux incapables s'étaient lamentés sur leur triste sort tirait à sa fin. Le poste de la baie d'Hudson, ça remonte à longtemps, observa Jacques Baptiste. Il ne sert plus à rien. Son père avait accompli autrefois ce trajet pour la Compagnie des Fourrures, laissant par la même occasion sur la piste deux orteils gelés.
« Tu perds la boule !» s'écria un membre du groupe. « Il n'y a pas de blanc ?»«
Pas un !» affirma Sloper d'un ton sentencieux. « Mais Dawson n'est qu'à 500 miles plus haut sur le Yukon, disons en gros à un millier de miles d'ici. » Witherby et Kutzfert gémirent en cœur.
Combien de temps cela prendra-t-il, Baptiste ?
Le métis réfléchit un instant.
En travaillant comme des damnés, si personne ne flanche, il faut compter 10, 20, 40 ou 50 jours. Mais si les bébés viennent,
désigner les incapables.
Impossible à dire.
Peut-être quand il gèlera en enfer, peut-être même pas à ce moment-là. La confection des raquettes et des mocassins s'interrompit. Quelqu'un appela le nom d'un membre absent qui sortit d'une vieille cabane non loin du feu de camp et vint les rejoindre. La cabane constituait l'un des nombreux mystères tapis dans les vastes étendues isolées du Grand Nord. Quand avait-elle été construite et par qui ? Nul n'aurait pu le dire. Devant, deux tombes signalées par deux gros tas de pierres renfermaient peut-être le secret de ces aventuriers qui les avaient précédés. Mais quelle main avait entassé les pierres ? Le moment était venu. Jacques Baptiste arrêta d'ajuster un harnais pour immobiliser le chien récalcitrant dans la neige. Le cuisinier s'indigna en silence du retard pris, jeta une poignée de bacon dans une marmite de haricots qui mijotait à grand bruit, puis tendit l'oreille. Sloper se leva. Son corps contrastait de façon grotesque avec le physique rayonnant de santé des incapables. Chétif et le teint jaune, fuyant un trou à fièvre de l'Amérique du Sud, il avait baroudé sous toutes les latitudes et était cependant capable de trimer avec les hommes. Il devait peser 40 kilos avec son lourd couteau de chasse et ses cheveux grisonnants indiquaient qu'il n'était plus dans sa prime jeunesse. Les muscles frais et dispos de Witherby ou de Kutzfert étaient capables d'efforts 10 fois supérieurs à ceux qu'il aurait pu fournir. Et malgré cela, il se faisait fort de les faire crever avant la première étape. Tout au long de la journée, il avait exhorté les plus vigoureux de ses camarades à se risquer sur un millier de miles réservant les épreuves les plus rudes qu'on pût imaginer. Il était l'incarnation même du malaise de sa race. Et le vieil entêtement teuton, ajouté à la vivacité et aux besoins d'action du Yankee, tenait la chair soumise à l'esprit.
Que ceux qui sont d'accord pour partir avec les chiens aussitôt que la glace se formera disent oui. Oui !
S'écrièrent 8 voix. Des voix faites pour débiter une bordée de jurons sur des milliers de miles de souffrance.
Un avis contraire ? Non !
Pour la première fois, les incapables étaient d'accord sans le moindre compromis par intérêt personnel.
« Et que comptez-vous faire ?»
ajouta Witherby d'un air belliqueux.
« La loi de la majorité, la loi de la majorité !»
s'emporta le reste du groupe. « Je sais que l'expédition peut échouer si vous ne venez pas, » répliqua suavement Sloper.
« Mais je crois que si on travaille très dur, on arrivera à se débrouiller sans vous. »
Qu'est-ce que vous en dites, les gars ?
Ce sentiment fut acclamé à l'unisson.
Mais
voyons, hasarda Kutzfert, plein d'appréhension.
Que peut faire un type comme moi ?
Tu ne viens pas avec nous ?
Non.
Alors fais comme bon te semble. Nous n'avons rien à y redire.
Tu pourrais passer une sorte d'accord avec ton bon à rien d'associé,
suggéra un Américain de l'Ouest lourdeau qui venait du Dakota en désignant Witherby.
Il te demandera ce que tu vas faire quand il s'agira de cuisiner et de ramasser du bois.
Considérons que tout est arrangé, conclut Sloper. Nous partirons demain pour camper à 5 miles d'ici, histoire de tout mettre en ordre de marche et de vérifier que nous n'avons rien oublié.
Les traîneaux glissaient sur leurs patins chaussés d'acier, et les chiens s'échinaient à tirer dans les harnais sous lesquels ils étaient destinés à mourir. Jacques Baptiste s'arrêta à côté de Sloper pour regarder une dernière fois la cabane. La fumée s'échappait en volutes pathétiques par le tuyau du poêle du Yukon. Les deux incapables les observaient depuis le seuil. Sloper posa la main sur l'épaule de son compagnon.
« Jacques Baptiste, as-tu jamais entendu parler des chats de Kilkenny ?»
Le métis secoua la tête.
« Eh bien, mon ami et camarade, les chats de Kilkenny se sont battus jusqu'à ce qu'il ne reste à chacun d'eux ni peau, ni poil, ni miaulement. Tu entends ? Jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Très bien. Ces deux hommes n'aiment pas le travail, ils ne travailleront pas, nous le savons. Ils resteront seuls dans cette cabane tout l'hiver, un hiver sombre et interminable, comme les chats de Kilkenny, pas vrai ?
Le Français en Baptiste haussa les épaules, mais l'Indien en lui garda le silence. Néanmoins, c'était un haussement d'épaules éloquent, lourd de prophétie. Au début, les choses prospérèrent dans la petite cabane. Le rude badinage de leurs camarades avait rendu Witherby et Cuthbert conscients de la responsabilité mutuelle qui leur incombait. En outre, il n'y avait pas tant de travail que cela pour deux hommes en pleine santé. Et la disparition de leur cruel tyran, en d'autres termes le métis qui leur imposait sa loi, avait entraîné chez eux une réaction de joie. Au début, chacun d'eux s'évertua à surpasser l'autre, et ils accomplirent leurs menues tâches avec des manières onctueuses qui auraient ouvert les yeux de leurs camarades en train de s'échiner corps et âme sur la longue piste. Tout souci était banni. La forêt qui les entourait sur trois côtés constituait une réserve de bois inépuisable. À quelques mètres de leur porte, sommeillait le porcupine, et un trou dans son manteau d'hiver offrait une source d'eau bouillonnante, claire comme du cristal et terriblement froide. Mais ils ne tardèrent pas à y trouver un défaut. Le trou s'obstinait à geler, ce qui les obligeait durant des heures pénibles à briser la glace. Les inconnus, qui avaient construit la cabane, avaient prolongé les poutres sur le côté de façon à soutenir une cache à l'arrière. Là était entreposé le gros des provisions des deux hommes. Il y avait de la nourriture à profusion, trois fois plus qu'il ne leur en faudrait. Mais la plus grande partie était de nature à affermir les muscles et les tendons, plutôt qu'à flatter le palais. De fait, il y avait du sucre en abondance pour deux hommes ordinaires, mais ces deux-là n'étaient guère plus que des enfants. Ils découvrirent très vite les vertus de l'eau chaude, judicieusement saturée de sucre, et ils trempèrent avec prodigalité leurs biscuits et ramollirent leurs croûtons dans l'épais sirop blanc. Ensuite, le café, le thé et surtout les fruits secs firent l'objet de désastreuses incursions. Leur premier différend eut lieu à propos du sucre. Or, c'est une affaire très sérieuse quand deux hommes qui dépendent entièrement l'un de l'autre pour toute compagnie commencent à se quereller. Witherby aimait parler à cœur ouvert de politique, tandis que Cuthbert, qui s'était contenté de détacher ses coupons de rente et de laisser la chose publique se maintenir vaille que vaille, soit ignorait la question, soit se répandait dans de saisissantes épigrammes. Mais l'employé était trop obtus pour apprécier la formulation habile de la pensée et ce gâchis de munitions irritait Cuthbert. Habitué à éblouir les gens par son brio, il endurait avec beaucoup de difficulté d'être privé d'auditoire. Il se sentait lésé de façon personnelle et en tenait inconsciemment pour responsable son compagnon à tête de veau. En dehors de leur existence, ils n'avaient rien en commun, ne se rencontraient sur aucun point.
Witherby était un employé qui, de toute sa vie, n'avait jamais rien connu d'autre que ses bureaux. Kusvert était un homme diplômé, faisait de la peinture à l'huile en amateur et n'avait pas écrit qu'un peu. L'un était un homme de basse classe qui se prenait pour un gentleman, l'autre un gentleman qui savait en être un. D'où il est permis d'observer qu'un homme peut être un gentleman sans posséder la moindre intuition de ce qu'est la vraie camaraderie. L'employé était aussi sensuel que l'autre était esthète, et ses aventures amoureuses racontées avec force détail, et forgées pour l'essentiel dans son imagination, affectaient le très sensible maître S-Lettre, comme l'eussent fait des relents de gaz d'égout. Il considérait l'employé comme une brute répugnante et inculte, dont la place se trouvait dans la boue avec les pourceaux. Et il le lui fit savoir. Celui-ci l'informa à son tour qu'il n'était qu'une poule mouillée et un malotru. Sa vie en eût-elle dépendu, Witherby eût été incapable de définir malotru, mais le mot satisfaisait son propos, ce qui semble après tout l'essentiel dans la vie. Witherby, qui déraillait toutes les trois notes, chantait des chansons telles que le cambrioleur de Boston et le beau mousse pendant des heures entières, tandis que Kusvert pleurait de rage jusqu'à ce qu'à bout de patience, il s'enfuit au dehors. Mais il n'y avait pas d'issue, le froid intense n'était pas supportable longtemps et la petite cabane encombrée, les lits, le poêle, la table et tout le reste, les confinaient dans un espace de 10 mètres sur 12. La présence même de l'un devenait pour l'autre un affront personnel, de sorte qu'ils s'enfermaient dans des silences obstinés qui augmentaient en durée et en intensité au fil des jours. Parfois, un regard fulgurant ou une moue dédaigneuse exprimait le meilleur d'eux-mêmes, bien qu'ils s'évertuent à ignorer complètement l'un et l'autre pendant ces périodes de mutisme. Et chacun, dans son tréfonds, de s'étonner du fait que Dieu ait pu un jour créer l'autre. Ayant peu à faire, le temps devenait pour eux un fardeau intolérable, ce qui naturellement les rendit encore plus paresseux. Un matin où c'était son tour de préparer le petit déjeuner commun, Witherby se glissa hors de ses couvertures et tandis que son compagnon ronflait, il alluma d'abord la lampe et ensuite le poêle. Les bouilloires étaient gelées et il n'y avait pas d'eau dans la cabane pour se laver. Mais cela ne le dérangeait pas. En attendant que l'eau dégèle, il trancha du lard et se plongea dans l'odieux stage de faire du pain. Kusvert l'avait observé en douce entre ses paupières mi-closes. S'ensuivit une scène au cours de laquelle ils se baignirent copieusement. Et ils convinrent que chacun préparerait désormais sa nourriture. Une semaine plus tard, Kusvert négligea ses ablutions matinales, mais n'en mangea pas moins avec suffisance le repas qu'il s'était fait cuire. Witherby sourit, après quoi la ridicule habitude de se laver disparut de leur vie. Alors que le tas de sucre et autres petites douceurs diminuaient, ils commencèrent à craindre de ne pas disposer de la part qui leur revenait, et pour ne pas être lésés, ils se mirent à se gaver. Les douceurs souffrirent de ce concours de gloutonnerie, autant que les hommes. En l'absence de légumes frais et d'exercice, leur sang s'appauvrit et de répugnantes rougeurs violacées leur couvrirent bientôt le corps. Ils refusèrent cependant de tenir compte de cet avertissement. Très vite, leurs muscles et leurs articulations se mirent à enfler, leur chair à noircir, tandis que leur bouche, leurs gencives et leurs lèvres prenaient une couleur de crème épaisse. Au lieu de se sentir rapprochés par leur misère, chacun jubilait de voir les symptômes de l'autre à mesure que le scorbut progressait. Ils perdirent tout intérêt pour leur propre apparence et par là même de la décence la plus élémentaire. La cabane se transforma en une porcherie et plus jamais ils ne firent leur lit ni n'étalèrent des branches de pin fraîches sous leur couche. Néanmoins, ils ne pouvaient rester dans leur couverture comme ils l'auraient souhaité, car le froid était inexorable et le poêle consommait beaucoup de combustible. Leurs cheveux et leurs barbes devenaient longs et hirsutes, et leurs vêtements auraient rebuté un chiffonnier. Mais ils s'en moquaient. Ils étaient malades et personne n'était là pour les voir. De plus, il leur était très pénible de se déplacer. À tout cela vint s'ajouter une nouvelle inquiétude, la peur du Grand Nord. Cette peur, fruit commun du grand froid et du grand silence, était née dans l'obscurité de décembre, quand le soleil avait disparu pour de bon au sud, derrière l'horizon. Chacun s'en trouva affecté selon son caractère. Witherby, en proie à des superstitions grossières, faisait de son mieux pour ressusciter les esprits qui dormaient dans les tombes abandonnées. La chose le fascinait, et dans ses rêves, il sortait du froid pour venir vers lui, se blottissait sous ses couvertures et lui racontait les peines et les tracas qui avaient précédé leur trépas. Il se reculait pour échapper à leur contact moite, tandis qu'ils se rapprochaient et enroulaient autour de lui leurs membres glacés. Et, quand il lui chuchotait à l'oreille ce qui allait advenir, la cabane retentissait de ses hurlements de terreur. Kusvert ne comprenait pas, car il ne se parlait plus, et lorsque les cris le réveillaient, invariablement, il s'emparait de son revolver. Puis, il se redressait dans son lit pris de tremblements nerveux, l'arme braquée sur le rêveur inconscient. Kusvert estimait que l'homme était fou et en vain à craindre pour sa vie. Sa maladie à lui empruntait une forme moins concrète. Le mystérieux artisan qui avait construit la cabane, poutre après poutre, avait fixé une girouette sur le faîte du toit. Kusvert avait remarqué qu'elle indiquait toujours le sud, et un jour, irrité par cette ténacité, il la tourna vers l'est. Il la surveilla avec attention, mais pas un souffle d'air ne la fit bouger. Alors, il tourna la girouette vers le nord en jurant de ne plus y toucher jusqu'à ce que le vent souffle. Mais le calme surnaturel de l'air l'effraya, de sorte qu'il se levait souvent au milieu de la nuit pour voir si la girouette avait pivoté. 10 degrés auraient suffi à le contenter. Mais non. Elle restait posée là, au-dessus de sa tête, aussi immuable que le destin. Son imagination se déchaîna, au point que la girouette devint pour lui un fétiche. Parfois, il suivait le chemin qu'elle indiquait à travers les étendues lugubres et laissait la peur envahir son âme. Il ruminait sur l'invisible et l'inconnu, jusqu'à ce que le fardeau de l'éternité semble l'écraser. Tout dans le Grand Nord avait cet effet écrasant. L'absence de vie et de mouvement, l'obscurité, la paix infinie de ce pays pesant, le silence sinistre qui faisait résonner chaque battement de cœur comme un sacrilège, la forêt solennelle qui semblait garder quelque chose d'horrible et d'inexprimable qu'aucun mot ni pensée ne saurait appréhender. Le monde, qu'il avait quitté si récemment avec ses nations affairées et ses grandes entreprises, lui semblait très loin. Des souvenirs remontaient parfois, des souvenirs de marchés, de galeries et d'artères encombrées, d'habits de soirée et de fonctions sociales, d'hommes intègres et de femmes aimées qu'il avait connues. Mais ce n'étaient que les souvenirs confus d'une vie qu'il avait vécue voilà de longs siècles sur une autre planète. Ce fantasme était pour lui la réalité. Debout, sous la girouette, les yeux rivés sur le ciel polaire, il ne parvenait pas à réaliser que le sud existait pour de bon, qu'à cet instant même, il grouillait de vie et d'animation. Il n'y avait pas de sud, pas d'homme engendré par des femmes, pas de mariage. Là, sous ce morne horizon, s'étendaient de vastes solitudes, et derrière celles-ci, d'autres, encore plus vastes. Il n'existait pas de pays où le soleil brillait et où l'air était lourd du parfum des fleurs. De telles choses n'étaient que d'anciens rêves de paradis. Les terres ensoleillées de l'ouest et les royaumes des épices de l'est, la riante Arcadie et les îles bénies des bienheureux. Son rire fendit le vide et ce bruit inhabituel le stupéfia. Il n'y avait pas de soleil. Ceci était l'univers mort, glacial et sombre. Et il en était le seul citoyen. Witherby ? Dans ces moments-là, Witherby ne comptait pas. Il le voyait comme un caliban, un fantôme monstrueux enchaîné à lui depuis l'éternité, un châtiment pour quelques crimes oubliés. Il vivait avec la mort parmi les morts, affaibli par le sentiment de sa propre insignifiance, écrasé par la domination passive des âges révolus. La grandeur de toute chose l'horrifiait. Tout participait au superlatif sauf lui. la parfaite cessation du vent et du mouvement, l'immensité des terres sauvages couvertes de neige, la hauteur du ciel et la profondeur du silence. Cette girouette, si seulement elle voulait tourner, si la foudre pouvait tomber ou la forêt s'embraser, l'enroulement des cieux, le fracas du jugement dernier, n'importe quoi, mais non, rien ne bougeait. Le silence l'oppressait et la peur du grand Nord enserrait son cœur de ses doigts glacés. Un jour, tel un nouveau Robinson Crusoe, il aperçut une trace près de la rivière. L'empreinte légère d'un lapin à raquettes sur la fine croûte de neige. Il y avait donc de la vie dans le grand Nord. Il allait la suivre, la surveiller sans repaître les yeux. Oubliant ses muscles enflés, il s'enfonça dans la neige profonde en se réjouissant d'avance. La forêt l'avala et le bref crépuscule de midi s'évanouit. Mais il poursuivit sa quête jusqu'à ce que la nature épuisée revendique ses droits et le couche, impuissant, dans la neige. Il grogna et maudit sa folie en comprenant que la trace n'était que le fruit de son imagination. Tard dans la nuit, il regagna la cabane en se traînant à quatre pattes, les joues gelées et ressentant un étrange engourdissement dans les pieds. Witherby eut un sourire malveillant, mais ne proposa pas de lui venir en aide. Cuthbert piqua des aiguilles dans ses orteils sans rien ressentir et les mit à dégeler près du poêle. Une semaine plus tard, la gangrène s'y était mise. Mais l'employé avait ses propres soucis. Les morts sortaient plus souvent de leur tombe et le laissaient rarement en paix, qu'il fût éveillé ou endormi. Il finit par attendre avec épouvante leur venue et ne passait jamais devant les deux monticules de pierre sans un frisson. Une nuit, ils vinrent à lui dans son sommeil et l'emmenèrent avec eux pour lui assigner une tâche. Pris d'une horreur indicible, il se réveilla entre les tas de pierres et s'enfuit comme un fou vers la cabane. Il était resté étendu là un certain temps, car il avait aussi les pieds et les joues gelées. Parfois, désespéré par leur présence insistante, il dansait en rond dans la cabane, fendant l'air à coups de hache et détruisant tout ce qui se trouvait à sa portée. Durant ces rencontres fantomatiques, Cuthbert se blottissait sous ses couvertures et suivait les mouvements du fou avec un revolver armé, prêt à l'abattre s'il l'approchait de trop près. Mais, au sortir de ses crises, l'employé remarqua l'arme braquée sur lui. Ses soupçons s'éveillèrent, et à dater de ce moment, lui aussi vécut en craignant pour sa vie. Après cela, ils s'épièrent à chaque instant, chacun se retournant avec un sursaut d'effroi dès que l'autre passait derrière lui. Cette appréhension devint une manie qui les poursuivait jusque dans leur sommeil. Animés par une peur mutuelle, c'est d'un accord tacite qu'ils laissaient brûler la lampe toute la nuit et veillaient à la remplir largement de graisse avant de se retirer. Le moindre mouvement de l'un suffisait à réveiller l'autre, et pendant de longues heures, ils se surveillaient du regard tandis qu'ils tremblaient sous leur couverture, le doigt sur la détente. Avec la peur du Grand Nord, la tension mentale et les ravages de la maladie, ils perdirent tout semblant d'humanité, prenant l'apparence de bêtes sauvages, traquées et aux abois. Suite aux engelures, leurs joues et leurs nez étaient devenus tout noirs. Leurs orteils gelés avaient commencé à se détacher au niveau de la première et de la deuxième phalange. Le moindre geste leur était une souffrance, mais le poil se montrait insatiable, arrachant à leur pauvre corps une rançon de torture. Jour après jour, il réclamait sa nourriture, sa livre de chair, et il se traînait dans la forêt pour couper du bois à genoux. Un jour, rampant ainsi à la recherche de branches sèches, ils entrèrent à leur insu dans un bosquet, chacun par un côté. Soudain, sans prévenir, deux têtes de mort au regard fixe se retrouvèrent face à face. La souffrance les avait transformés au point qu'il leur fut impossible de se reconnaître. Ils se redressèrent d'un bond, hurlant d'effroi, et se sauvèrent sur leurs moignons mutilés. En s'écroulant devant la porte de la cabane, ils se griffèrent et s'égratignèrent tels des diables, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent de leur méprise. Parfois, Ils reprenaient leur état normal et c'est au cours d'une de ces périodes de lucidité que le principal objet de leur différend, le sucre, avait été réparti en deux parts égales. Ils gardaient chacun leur sac, entreposé dans la cache qu'ils surveillaient d'un œil jaloux. Car il n'en restait plus que quelques mesures et ils étaient pleins de méfiance l'un envers l'autre. Mais un jour, Kustvert commit une erreur. À peine capable de se déplacer, perclus de douleur, la tête vide et les yeux aveuglés, il rampa dans la cache, sa boîte à sucre à la main, et prit le sac de Withbury pour le sien. Janvier venait de commencer lorsque cet événement se produisit. Le soleil, qui depuis quelque temps avait terminé de décliner au plus bas vers le sud, projetait en plein midi des fiers rayons de lumière jaune vers le ciel septentrional. Le lendemain de son erreur sur le sac de sucre, Kustvert ressentit une amélioration aussi bien physique que morale. Alors que midi approchait et que le jour s'éclaircissait, il se traîna au dehors afin de profiter de l'évanescente clarté dans laquelle il voyait un gage des intentions futures du soleil. Witherby, qui ressentait un mieux lui aussi, rampa le rejoindre. Le calme de la mort les entourait. Sous d'autres climats, quand la nature se désole ainsi, on perçoit une sorte d'expectative contenue, l'attente d'une petite voix qui reprendra l'effort brisé. Mais pas dans le Grand Nord. Les deux hommes avaient vécu ce qui leur semblait des siècles dans cette paix spectrale. Ils ne pouvaient se rappeler aucun chant du passé, ni imaginer aucun chant d'avenir. Ce calme surnaturel avait toujours existé, le silence tranquille de l'éternité. Leurs yeux fixaient le nord, invisible dans leur dos, derrière les montagnes qui se dressaient au sud. Le soleil décrivait une courbe majestueuse vers le zénith d'un autre ciel que le leur. Seuls spectateurs de ce panorama grandiose, ils regardèrent la fausse aurore se lever peu à peu. Le soleil revenait. Il serait là demain, le jour suivant et les autres encore. À chaque visite, ils s'attarderaient davantage. Et le moment viendrait où ils traverseraient leur ciel, jour et nuit, sans jamais descendre sous l'horizon. Il n'y aurait plus de nuit. L'hiver, pris dans les glaces, s'achèverait. Les vents souffleraient et les forêts leur répondraient. La terre baignerait dans le soleil bienheureux et la vie renaîtrait. Main dans la main, ils sortiraient de cet horrible cauchemar et repartiraient vers le sud. Aveuglément, ils se penchèrent en avant et leurs mains se touchèrent, leurs pauvres mains mutilées, gonflées et déformées sous leurs mitaines. Mais la promesse n'était pas destinée à se réaliser. Le Grand Nord est le Grand Nord et l'âme des hommes y est soumise à d'étranges règles que ceux qui n'ont jamais voyagé en pays lointain ne saurait comprendre. Une heure plus tard, Kustvert mit du pain à cuire au four et se surprit à spéculer sur ce que les chirurgiens pourraient faire de ses pieds quand il serait de retour. Son foyer ne lui semblait désormais plus si loin. Witherby farfouillait dans la cache. D'un seul coup, il lâcha un chapelet de jurons qui cessèrent aussi brusquement. L'autre lui avait volé son sac de sucre. Toutefois, les choses auraient pu se passer autrement si les deux défunts n'étaient pas sortis de sous leurs pierres pour lui faire ravaler ses injures. Ils l'entraînèrent en douceur hors de la cache, qu'il oublia de refermer. Ce but était atteint, ce quelque chose qui lui avait murmuré dans ses rêves était sur le point de se produire. Ils le guidèrent très doucement jusqu'au tas de bois, où ils lui mirent la hache dans les mains. Puis ils l'aidèrent à pousser la porte de la cabane et il fut persuadé qu'il la refermait derrière lui. En tout cas, il l'entendit claquer et le loquet retomba en place d'un coup sec. Et il savait qu'ils étaient dehors, attendant qu'il accomplisse sa tâche. « Carter ? Hé, Carter ! » Percy Kustvert, effrayé par l'expression sur le visage de son compagnon, s'empressa de placer la table entre deux. Carter Witherby le suivit sans hâte et sans enthousiasme. Son visage n'exprimait ni pitié ni colère, mais plutôt le flegme patient de celui qui a un certain travail à effectuer et s'en acquitte avec méthode. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » L'employé recula, coupant la retraite vers la porte, mais sans ouvrir la bouche. « Voyons, Carter, voyons, parlons, là, gentil. » Le maître S.R., qui réfléchissait à présent à toute vitesse, amorça un habile pas de côté en direction de son lit où se trouvaient son Smith et Wesson. Gardant le fou à l'œil, il se laissa tomber en arrière sur sa couche tout en saisissant son revolver.
« Carter !»
La poudre brûla Witherby en pleine figure, mais il brandit son arme et se rua en avant. La hache mordit Persicus Fert en bas du dos, et il eut l'impression que ses jambes l'abandonnaient. Alors, l'employé tomba de tout son poids sur lui, l'agrippant à la gorge de ses faibles doigts. Le puissant coup de hache avait fait lâcher son arme à Cusfert, et tandis que ses poumons cherchaient de l'air, il farfouilla à tâtons de la main entre les couvertures pour la retrouver. Alors, il se souvint. Il glissa une main vers le couteau que l'employé portait dans un étui à la ceinture. Et, dans ce dernier corps à corps, ils s'enlacèrent étroitement. Persicus Fert sentit ses forces le lâcher. La partie inférieure de son corps était inutilisable. Le poids inerte de Witherby l'écrasait et le clouait au sol comme un ours pris au piège. La cabane se remplit d'une odeur familière et il comprit que le pain était en train de brûler. Mais que lui importait? Il n'en aurait plus jamais besoin et il restait 6 mesures de sucre dans la cache. S'il avait prévu cela, il n'aurait pas été si économe les derniers jours. La girouette bougerait-elle encore? Peut-être tournait-elle à l'instant même? Pourquoi pas? N'avait-il pas aperçu le soleil aujourd'hui? Il allait sortir voir. Non, il lui était impossible de remuer. Il n'aurait jamais cru que l'employé était si lourd. Comme la cabane se refroidissait vite, le feu avait dû s'éteindre, le froid pénétrait. Il devait déjà faire en dessous de 0, et la glace gagnait l'intérieur de la porte. Il ne la voyait pas, mais son expérience passée lui permettait d'évaluer sa progression d'après la température de la cabane. Le gond du bas devait avoir blanchi. Son histoire parviendrait-elle, un jour, au reste du monde? Qu'en diraient ses amis? Il était probable qu'ils la liraient en buvant leur café et en parleraient au club. Il les voyait très bien. « Pauvre vieux Cusfert », murmurerait-il. Il n'était pas si mauvais bougre après tout. Il sourit de leur éloge funèbre et poursuivit son chemin à la recherche d'un pain turc. C'était toujours la même foule dans les rues. Curieux, personne ne remarquait ses mocassins en peau d'élan et ses chaussettes allemandes en lambeaux. Il allait prendre un taxi. Et après le bain, passer chez le barbier ne lui ferait pas de mal. Non, d'abord il mangerait un steak avec des pommes de terre et des légumes verts, comme tout était frais. Et ça, qu'est-ce que c'était? Des rayons de miel d'où s'écoulait un liquide ambré? Mais pourquoi en apportait-on autant? Jamais il ne pourrait tout manger. Me cirer les souliers, mais volontiers. Il posa son pied sur la boîte. Le cireur le regardait d'un air curieux. Se rappelant qu'il portait des mocassins en peau d'élan, il s'éloigna en vitesse. Ah, la girouette doit être en train de tourner? Non, un simple bourdonnement dans ses oreilles. C'était tout, un simple bourdonnement. La glace avait dû maintenant dépasser le loquet. Sans doute recouvrait-elle même les gonds du haut. Entre les poutres piquées de mousse, des petits points de givre commençaient à apparaître. Comme ils étaient lents à se former. Non, pas si lents que ça. Il y en avait un nouveau et encore un autre. 2, 3, 4. Ils arrivaient trop vite pour les compter. Il y en avait 2 qui poussaient ensemble et là un troisième les avait rejoints. Mais ce n'étaient plus des points, ils s'étaient tous réunis et formaient un grand drap. Eh bien, il aurait de la compagnie. Si jamais l'ange Gabriel rompait le silence du Grand Nord, il se tiendrait côte à côte, main dans la main, devant le grand trône blanc. Et Dieu les jugerait. Dieu les jugerait. Alors, Persicus Fert ferma les yeux. Il sombra dans le sommeil.